par Nathalie Barche.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bienvenue à l'écoute de l'émission interactive de VOA Afrique. À votre avis, Nathalie Barge avec vous dans les studios de la Voix de l'Amérique à Washington pour parler aujourd'hui de l'influence de la religion sur la politique. À la lumière de quelques exemples, notamment dans certains pays d'Afrique de l'Ouest, où les confréries musulmanes ont une grande influence sur la vie politique, comme au Sénégal ou au Mali. En République démocratique du Congo, certaines confessions religieuses, principalement chrétiennes, sont également influentes en politique, jusqu'au sein de la commission électorale. Des partis politiques à tendance religieuse sont très présents sur la scène politique, comme le PUR au Sénégal ou la CDU en Allemagne. Les partis à tendance religieuse sont d'ailleurs présents dans une quinzaine de pays d'Europe. On a aussi des cas de religieux à la tête de partis politiques, comme le prêtre catholique Paul Lemba Abessolé, ancien leader de l'opposition au Gabon. Et l'on sait que la religion pèse de tout son poids dans des pays qui ont pourtant inscrit la laïcité dans leur constitution. Alors quel est le pouvoir de la religion en politique? Quelles sont les conséquences de l'interférence religieuse au sein des gouvernements? Nous avons, pour en parler avec vous, deux invités. On a Stéphanie Mbombo, qui est présidente du parti politique en République démocratique du Congo. Stéphanie, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous.
Merci, c'est bon. Merci beaucoup de m'avoir invité.
C'est pour nous un grand plaisir de vous avoir. Alors, on a aussi également comme invité docteur Yacine Diagne, donc on tente de joindre par téléphone. Elle est enseignante chercheuse au CESTI à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Donc Stéphanie, vous êtes donc présidente du parti politique le CRIC, hein, c'est le Cercle des réformateurs intègres du Congo, d'idéologie sociale libéral. Bon, dans un premier temps, est-ce que votre parti est plus ou moins influencé par une quelconque religion ou non, pas du tout pour vous? Est-ce que cela importe de séparer les deux questions en ce qui concerne votre parti en particulier avant de rentrer dans le débat?
Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci pour la question. Je dirais tout de suite non. Notre parti n'est pas influencé par quelques régions. Nous sommes un parti libéral social. Notre libéralisme est sur le point de vue économique et sur le point de vue culturel et coutumière. Nous gardons nos coutumes et nos cultures et aussi nos religions. Mais je vous verrais plutôt l'influence sur les membres du parti qui font partie de certaines confessions religieuses où peut-être on leur impose de rester un peu sur le banc, en arrière. Et comme j'ai beaucoup de jeunes, par exemple, des témoins de Jéhovah, mais qui ne peuvent pas pratiquer la pauvreté parce que leur religion leur interdit, mais ils sont intelligents et ils voudraient bien contribuer, mais ils sont bloqués par rapport à ça. Il y a aussi la communauté musulmane, mais nous avons une dame qui est notre secrétaire nationale de la communication, qui est musulmane, qui est de Kisangani, qui est une province très dominée par la religion musulmane, qui évolue plutôt très bien, mais elle fait l'effort de ramener la communauté musulmane vraiment de participer au sein du parti, mais ça reste très très timide par rapport aux femmes musulmanes.
Alors, on essaie toujours de joindre Dr Yacine Diagne par WhatsApp au 221 à son téléphone au Sénégal, et on essaie aussi d'appeler son téléphone fixe qui est en France. Stéphanie Mbombo, est-ce que vous pourriez nous tracer une petite cartographie de la présence du religieux dans les affaires politiques en République démocratique du Congo, à votre pays, notamment à travers les déboires de la commission électorale? On sait que deux confessions chrétiennes ont ou avaient un grand pouvoir, en tout cas, d'une certaine manière, sur cette commission, qui se doit d'être impartiale en matière électorale.
Ah oui, absolument. D'abord, il ne faut pas jeter le bébé et son bain. L'église catholique qui reste l'église dominante dans l'histoire du Congo, qui a milité en politique d'abord contre la dictature de Mobutu. À l'époque, vous avez la conférence souveraine nationale qui a été présidée par Monseigneur Mosengo. L'église catholique reste une église de référence pour le contrepoids dans la politique. Elle a aussi beaucoup travaillé avec le parti au pouvoir, l'UDPS, pour combattre la dictature de Kabila, fils. Quand il s'agissait de reporter les élections, l'Église catholique a beaucoup contribué pour que la constitution soit respectée. Mais là, nous ne pouvons pas non plus accepter que l'Église devienne une sorte d'illusion dans la politique interne du pays, parce qu'il doit garder son rôle au sein, comme une église au milieu du village.
Mmh. Alors, est-ce que la représentation des religions, est-ce que les religions sont représentées au sein du Parlement, que ce soit les parlements des provinces ou que ce soit le Parlement national? Est-ce que l'on a une bonne répartition ou est-ce que ce n'est pas le cas?
L'Église catholique est à l'état de la société civile. Et dans ce cadre-là, ils ont aussi des candidats de l'Église catholique qui sont dans le Parlement, dans le camp de la société civile. Mais ce que j'aimerais ici dire, c'est plutôt le rôle que l'Église catholique a joué où le confessionnal religieux joue dans la désignation du président de la commission électorale indépendante. Au Congo, nous avons 8 confessions religieuses, dont l'Église catholique, les Kimbanguistes, l'Église des Réveils, la Senko, je crois l'Armée du Salut et autres, qui jouent un rôle important, mais l'Église catholique aime toujours jouer les rôles de veto sur le choix des candidats qui peuvent présider la CENI. Mmh. Nous avons eu le cas récemment à la désignation de M. Denis Kadima, qui est par contre un candidat qui était très expérimenté, mais qui a failli ne pas être désigné parce que l'Église catholique et l'Église protestante du Congo voudraient mettre leur droit de veto comme si leur voix comptait plus que les autres. Mmh. Voilà, donc il y a 16 ans d'émission comme ça de l'Église catholique qui peut être aussi nuisible dans le bon déroulement des choses parce que en fin de compte, il y a eu beaucoup d'évolution au sein de religions au Congo. L'Église catholique n'a plus le monopole qu'il avait dans les années 60 comme religion au pays. Donc il faudrait que le voix des autres religieuses, de confessions religieuses aussi compte.
Et Stéphanie Mbombo, pourquoi pour vous la notion de laïcité est-elle importante dans les démocraties qui ont opté pour cette forme de gouvernance dans leur constitution, comme c'est le cas, j'imagine, en République démocratique du Congo?
Pour moi, c'est très important parce que ça ancrage la liberté de choix, la liberté de chacun de croire en sa propre religion. Et que l'on puisse pas traiter de gens au niveau démocratiquement par rapport à leur religion. Donc, il faut respecter la laïcité. Tout le monde a un droit, tout le monde a le droit de pratiquer sa religion de façon libre. Et c'est une liberté qui est consacrée dans notre constitution. C'est très important pour nous dans ce cadre-là.
Alors, Stéphanie Mbombo, restez avec nous. On va écouter la réaction d'un de nos auditeurs qui a laissé son message sur la messagerie WhatsApp de VOA Afrique. Il est au Niger. C'est Oumarou Sada Massaoudou.
Bonsoir, la Voix d'Amérique. Bonsoir, chers auditeurs. C'est Massaoudou Mazala depuis Tanda, Niger. Oui, dans certains pays en Afrique comme au Mali et au Sénégal, certains marabouts sont comme des rois. Qu'est-ce qui a fait ça? Au temps de la colonisation, les pays francophones sont dits à une situation très grave. Je dis très grave parce que la France a voulu mettre fin à la chefferie traditionnelle, mais certains pays ont bien exécuté l'ordre de la France comme le Sénégal et ils ne savaient pas à quoi ça va les arriver. Un marabout est un guide de Dieu, mais aujourd'hui au Sénégal, un marabout peut se prendre comme ça. C'est lui-même, c'est un messager envoyé par le Dieu, comme les prophètes envoient parfois dans les vidéos. On voit des marabouts avec des militaires et avec des gardes du corps. C'est quoi ça? Quand tu crois à Dieu et tu te prends comme tu dépasses tout le monde, tu n'es pas un vrai marabout. Il aime de l'argent, il aime le pouvoir. Et c'est pour cela qu'au Sénégal, surtout au Sénégal, la chefferie traditionnelle n'existe pas. C'est les marabouts qui représentent la chefferie traditionnelle. Et chaque jour, ils sont confrontés dans les autorités et les marabouts s'affrontent. Parce qu'il y avait certains marabouts au Sénégal, s'ils parlent, même si c'est un président qui parle, on prend la parole du marabout, quelle que soit la situation.
Voilà, donc c'était la réflexion d'un de nos auditeurs au Niger. Stéphanie Mbombo, si vous avez écouté un petit peu ce qu'il disait, hein, c'est pour ça qu'on essaie de joindre toujours le docteur Yacine Diagne, hein, qui est justement sénégalaise. Oui. Le cas du Sénégal, je ne sais pas si vous suivez un petit peu, hein, on a eu plusieurs affaires. Comment voyez-vous cela?
Je comprends bien du fait que à l'époque de Mobutu, hein, dans notre pays, ils consultaient beaucoup le marabout. Le Sénégal était connu pour avoir avoir des marabouts où le président africain avant le consultait et qui leur donnait de qui renforçait leur pouvoir. C'est quelque chose qui est en fait psychologique et ça joue sur la psychologie des autorités. Ces marabouts-là sont des diseurs de futur, des aventures, des protecteurs. Et par faiblesse, quand on est autorité, enfin, on l'écoute facilement. Mais c'est une question, moi je crois qu'on doit renforcer au niveau de l'éducation de chacun, de chaque dirigeant. Vraiment, c'est lié à l'éducation. Quand on a une éducation, le Sénégal est un pays parmi les pays africains où la population est très instruite. J'espère vraiment qu'ils vont se libérer de cette influence de religion sur leur pouvoir, sur la façon de voir les choses, sur les dirigeants. C'est en fait cette peur de l'Africain quand il est au pouvoir, il faut qu'il y ait un peu le chef coutumier qui le protège, les gris-gris à côté. Donc, je ne sais pas comment l'expliquer de façon rationnelle, mais ce sont des réalités africaines qu'on doit combattre sur base d'une éducation, sur base d'une sensibilisation.
Alors, je voudrais avoir un petit peu votre sentiment par rapport à une réflexion d'un de nos auditeurs, hein, qui a écrit donc son commentaire sur le Facebook de VO Afrique. C'est Valentin Bachimbe. Il dit « La religion ne peut jamais se séparer du politique ». C'est une affirmation à discuter. Qu'est-ce que vous en pensez?
Moi, je crois que la religion, dans la religion, on est aussi éduqué. C'est normalement, les églises doivent jouer aussi le rôle de continuer l'éducation qu'on a à l'école, qu'on a à la maison, notamment sur la tolérance, le pardon, l'amour. Et ce sont des valeurs que nous demandons aux politiciens de respecter quand ils sont au pouvoir. Dans ce cadre-là, oui, mais dans le cadre dicté, la politique du pays par rapport à une religion, ça serait vraiment dommage parce que nous voulons vraiment que la politique soit dictée par rapport au programme établi d'un parti politique, d'un gouvernement à respecter, et non pas d'une quelconque croyance. Il ne faudrait pas oublier que dans ce monde, toutes les religions, à un moment donné, ont été nuisibles à la population. Nous avons le système de réquisition, je crois, de l'Église catholique qui a tué beaucoup de gens au nom de la religion à l'époque. Il y a les extrémistes musulmans qui tuent et qui bombardent au nom de la religion. À un moment donné, on doit dissocier la politique, doit rester pour le bien-être de la population. Dans le bien-être, on ne doit pas être dans l'extrême, mais plutôt dans ce qui est droit, dans des valeurs, dans des sociétés, dans le développement du pays.
Alors, Stéphanie Mbombo, vous avez également un pied en Israël. Hein, si on pouvait parler rapidement du cas israélien, oui, qui est un État juif, oui. Est-ce que il y a une notion de laïcité en Israël?
L'Israël se connaît comme un État juif, mais l'Israël a la liberté. Le musulman en Israël a la liberté de pratiquer, de participer en politique. Nous avons eu des ministres d'obédience musulmane. La coalition passée avec le premier ministre sortant Bennett avait coalisé avec le musulman, les communautés musulmanes pour former un gouvernement. Donc, même si ça reste un État hébreu, parce que la langue juive, la culture est juive, mais il y a une liberté d'expression, il y a une liberté de circulation. Par exemple, pour le Shabbat, c'est une journée où on ne peut pas toucher à une voiture, personne n'est fait circuler. Donc, vous ne verrez pas un policier israélien qui va mettre en prison tous ceux qui prendront leur voiture. Donc, ça reste foncièrement un État libre. J'ai vécu aussi au Maroc. J'étais au Maroc à un moment crucial du printemps arabe. Mais là, quand les frères musulmans ont pris le pouvoir au Maroc, après avoir contesté, après que l'Égypte a lancé ce printemps arabe, le gouvernement de frères musulmans au Maroc, dans des années, je crois, de 2014-2015, était le gouvernement le plus libéral que nous avons eu au Maroc. Et même le premier ministre de frères musulmans, nous l'avons eu la chance de le rencontrer, disait que non, moi je suis libéral. Donc quand il vient au pouvoir, il se rend compte qu'il ne faut pas gouverner à l'extrême. Finalement, il s'est plié aux désidératas de la population et de tout le monde et il se met au centre. Donc de ce côté-là, moi je ne pense pas qu'il y a vraiment une influence quelconque qui va détruire au niveau des musulmans.
Stéphanie Mbombou, restez avec nous. On va écouter la réflexion d'un autre auditeur. Il est dans votre pays, la République démocratique du Congo. C'est Alphonse Mbouaki. Il a laissé son commentaire sur la messagerie WhatsApp de VOA Afrique.
Alphonse Mbouaki, à votre avis, les politiques gèrent les biens des nations, les richesses des nations avec des populations et gèrent aussi la justice et les droits dans la nation, dans les États. Et la religion montre aux gens à croire à un être supérieur qui aussi peut intervenir dans les besoins des populations. Souvent, les deux pouvoirs s'empiètent lorsque les gouvernants politiques n'arrivent pas à bien assumer leur tâche, la tâche qui leur est dévolue. C'est ainsi qu'il y a imbrigation des pouvoirs. Mais les religions font partie de la société civile et on regarde sur les pouvoirs politiques. Lorsque, comme je le disais, celui-ci n'est pas bien fait, c'est ainsi qu'il y a influence de la religion sur la politique. Ceux qui gèrent les politiques aussi font partie de cette religion. Alors, les politiques interfèrent dans les affaires. Mais cependant, il y a des États qui sont religieux. Par exemple, la religion, l'État islamique de l'Iran. Israël aussi, c'est un judaïsme, mais les choses vont bien en Israël parce que il y a une bonne marche, un bon fonctionnement entre les deux pouvoirs. La religion islamique aussi permet d'autres religions, mais souvent il y a une grande influence du religieux sur le pouvoir, alors que ça ne devait pas être le cas. Donc la séparation des deux pouvoirs reste difficile. Donc moi je pense que les deux pouvoirs devaient plutôt abandonner l'amalgame. Chacun devait rester de son côté, mais ce qui est difficile. C'était Alphonse Mbouaki dans À votre avis.
Stéphanie Mbombo, est-ce que vous auriez un petit commentaire à faire après la réflexion de Alphonse?
Alphonse, oui, tout à fait. Merci beaucoup, Alphonse. Je trouve qu'il a marqué un point dans le sens où, dans les pays sous-développés comme le nôtre, où malheureusement on prend Dieu comme la solution à tout, qui doit prévenir les accidents, qui doit prévenir la nourriture sur la table, qui doit guérir les malades, qui doit guérir le malade au lieu d'avoir un système de santé efficace qui doit guérir la population. Dans ce cadre-là, les gens ont un peu encore une ascendance religieuse sur leur tête. Parce que on n'a pas de système qui tient, alors on vient à l'arrêt de bus, on prie pour que le taxi s'arrête, m'amène un rendez-vous. Le système évolue comme en Europe, on sait l'heure à laquelle le tram s'arrête, le bus s'arrête, on prend et on y va. Donc il y a ce poids-là de sous-développement qui est sur la tête des gens. Ça, c'est une chose. Mais dire que l'État aussi gère la justice, non, la justice doit. Il y a séparation de pouvoir au sein de l'État. Chacun fait son rôle, le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Il n'y a pas du tout d'amalgame là-dedans. Et quand il rentre pour dire que l'Église catholique joue un rôle, effectivement, l'Église catholique reste un peu celui qui sonne un peu la sonnette d'alarme quand le droit n'est pas respecté dans des pays encore une fois sous-développés. Quand le droit n'est pas respecté et il joue un rôle de la société civile de contrepoids. C'est ce qui est bien. Mais à cela, aller s'immiscer à bien des dirigeants au sein des membres du gouvernement, ça devient un problème. On doit vraiment essayer d'éviter parce que l'Église doit rester au milieu du village. Il doit faire son rôle d'éduquer les valeurs des gens, la mentalité des gens, pour que les gens changent. La citoyenneté devait être enseignée à l'Église. Donc ce sont des choses-là qu'on a besoin de l'église, mais pas venir s'immiscer dans le pouvoir. Et aussi, il faut que la population soit éduquée, en fait. L'éducation, j'insiste là-dessus, est très importante, parce que c'est ça qui demande, c'est ça qui fait de la population, des citoyens, des citoyennes qui vont réclamer des droits, leurs droits auprès des dirigeants, pour que les dirigeants améliorent leur vie. Et non pas se laisser entre les mains des dieux, comme on dit chez nous, que l'Église devient l'opium du peuple. Il y a des jeunes qui passent à Kinshasa, des jeunes qui passent à une semaine à l'Église. Quand est-ce que ces jeunes ont le temps de réfléchir sur son avenir, de réfléchir sur ses entreprises, d'entreprendre et d'évoluer, de chercher l'emploi? Quand on doit jeûner, prier, alors, évidemment, tout le monde est là dans les prières, mais on se concentre moins sur le développement du pays aussi. Je suis chrétienne, je crois. Mais il faut vraiment faire la part des choses également.
Alors, Stéphanie Mbombo, à propos de l'opium du peuple, hein, on a une réflexion sur le Facebook de VOA Afrique de Kébé Ibrahima. Il est au Mali. Et alors, il dit, cette assertion était le passé. Avec les colonels, dit-il, la religion musulmane n'a plus d'influence sur le pouvoir politique. Cela est révolu, pense-t-il. Et il rappelle que d'après Karl Marx, hein, la religion est l'opium du peuple, hein, philosophe allemand, et qui avait dit avant cette phrase, d'ailleurs, il avait dit « La religion est le soupir de la créature accablée, le cœur d'un monde sans cœur, comme elle est l'esprit d'une époque sans esprit. » Qu'est-ce que vous pensez, Stéphanie, de la réflexion de Kébé Ibrahima? Il parle évidemment des prises de pouvoir par les militaires dans certains pays d'Afrique de l'Ouest. Comment voyez-vous cela, justement, par rapport à l'influence de la religion aujourd'hui, avec cette nouvelle cartographie?
Oui, ça, évidemment, en Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, dans des pays de non-musulmans, il y a une autre problématique où il y a cette religion d'extrême qui veut introduire la charia. Il y a des problèmes au Nigeria, il y a des problèmes au Mali, il y a des problèmes au Niger, il y a tout ce mouvement extrême qui devient à la limite terroriste, qui impose la charia jusqu'à frapper les femmes des coups de fouet, des coups à tuer à coups de pierre, des femmes qui commettent l'adultère. Donc on recule un peu dans un monde où nous sommes appelés à être modernes, à évoluer, à respecter les droits de l'autre. Donc il y a un sérieux problème de droits qu'il faut être dans ces milieux-là. Nous, au niveau de l'Afrique centrale, quand on dit l'opium du peuple, c'est un peu comme cet adage qui dit que quand les colons sont arrivés, ils nous ont trouvés avec les minerais et ils nous ont appris à prier les yeux fermés. Et quand on a ouvert les yeux, nous on avait la Bible et ils avaient nos minerais. Nous, c'est en fait cette sorte de distraction que nous imposons nous-mêmes au niveau de l'Afrique, au niveau de notre pays, au lieu de prendre de nous accaparer de notre propre destin, nous le laissons toujours entre les mains des autres, les mains de Dieu ou les mains du pouvoir. Même le pouvoir est là pour faire le travail que nous, peuple, nous demandons que ce soit. Il est là pour notre bien-être avant tout. Donc il y a ces deux façons, ces deux lectures différentes de voir la religion comme au pion du peuple dans l'État, dans les pays à dominance musulmane où l'extrême religieux impose la charia et où aussi de l'autre côté au niveau du pays comme le pays de l'Afrique centrale où les pasteurs sont en train de manipuler des jeunes au lieu de les laisser travailler et exiger plus pour leur avenir et pour eux-mêmes et pour le pays.
Stéphanie Mbombo, restez avec nous, on est quasiment au terme de l'émission. Je vais terminer par des petits commentaires, notamment dans votre pays. Tim Mabozo, il dit, en ce qui me concerne, la religion, principalement l'Église catholique, a été un bon parent dans un moment crucial du pays, en poussant le régime passé à organiser les élections de 2018. On a la réflexion de Christian Djerabé, qui est au Tchad. Il dit, la religion a un pouvoir important en politique dans certains pays. Elle s'implique dans les négociations pour la paix. Elle plaide pour les cas sociaux. Elle intervient souvent pour le bon fonctionnement du gouvernement, pense-t-il. La réflexion de Hassan Omar Boulalé, qui est à Djibouti, il dit, les religieux ont de l'influence sur la politique en raison du respect qu'ils ont dans la population africaine, pense-t-il. Cette influence, ils peuvent l'utiliser positivement ou négativement. Très, très, très rapidement, en 10 secondes, Stéphanie, est-ce que selon vous, la laïcité est en danger dans certains pays? Très rapidement.
Je dirais oui, au cas où le religion dominante s'impose de plus en plus. Et puis, il y a toujours difficile de voir la ligne, hein, comme on dit en anglais, les trade-offs. Donc la ligne entre le fait que la religion doit être neutre et son rôle crucial dans le contexte de contrepoids pour la bonne gouvernance et la paix. Donc il y a toujours un peu la ligne, la marge est très transparente et qu'on doit veiller pour que cela soit respecté. Et c'est à nous, peuple, toujours, éveiller, à nous, élite, à nous qui sommes éduqués, d'éveiller à ce que le rôle de l'Église reste central et la politique doit faire son travail des côtés.
Un grand merci Stéphanie Mbombo. Je rappelle que vous êtes présidente du parti politique CRICAN, République démocratique du Congo. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir écoutés. C'était Nathalie Barge pour À votre avis sur VOA Afrique. Restez avec nous pour la suite de nos programmes. Très bonne soirée et bon courage.